Edition from NPR News.
Let's see, he's on Peter House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons en Australie qui veut remettre un peu les compteurs à zéro avec un nouveau Premier ministre qui parle de restaurer l'image de l'Australie. Les travaillistes ont battu les conservateurs. L'argument du climat a beaucoup joué. On verra si ce pays charbon, l'un des plus pollueurs du monde, est en train de changer de cap. Le bruit du monde lundi, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet avec notes vocales d'Ukraine, avec Dmitro et Alex qui ont pu remettre les pieds respectivement à Kharkiv et à Irpin. Et parfois, revenir, vous allez l'entendre, est une épreuve. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Ogeni a trouvé le Bangladesh qui souffre de terribles inondations. Le Taj Mahal, menacé donc par des hindous fanatiques. Et Israël, qui veut prévenir les noyades grâce à l'intelligence artificielle. 18h50, le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour, qui va nous raconter le Fly Formula, le pont aérien pour pallier la pénurie de lait pour bébé. Et la fille de celle qui a donné son nom ou son pseudo plutôt à Roe versus Wade qui parle. 18h55, c'est le monde d'après de Franck Madvon et cette visite chez les Ouïghours de Michel Bachelet au nom de l'ONU. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir David Camerou.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur honoraire aux séries de Sciences Po. Vous êtes aussi professeur invité à l'Université nationale du Vietnam d'Hanoï. Et c'est bien de le dire aussi. Le Premier ministre australien, donc, il va falloir retenir son nom, s'appelle Anthony Albanese. C'est le leader du Parti travailliste après 9 ans de Parti conservateur et après Scott Morrison. Donc, un Premier ministre élu, on y reviendra avec des mots sur le climat, des mots sur les aborigènes aussi. Sans une très forte majorité, on y reviendra également. Mais quand même, est-ce que vous diriez, David Camerou, que c'est le signe d'un changement du sol au plafond pour les Australiens ou pas?
Oui, moi j'ai le sentiment, la même ambiance que j'ai trouvé adolescent en 1972, quand les travaillistes sont arrivés au pouvoir après 23 ans de conservateurs. Mm-hmm. Et une espèce de, à l'époque, le slogan c'est « It's time », c'est mm-hmm. maintenant. Et j'ai un peu ce même sentiment en Australie. Le paradoxe, c'est que en fait, les travailleurs ont reçu moins de voix qu'en 2019, quand ils ont perdu. Mais il faut quand même.
Mais les conservateurs encore plus. Donc oui. On en a perdu encore plus. Donc ça s'équilibre
voilà.
Comme ça. Ouais.
Et mais il faut contextualiser dans le système. De mode de scrutin australien. Excusez-moi d'être un peu pédant là-dessus.
Non, je vous en prie. D'ailleurs, c'est intéressant ce mode de scrutin, donc allez-y. C'est voilà. Très inédit d'ailleurs.
L'Australie était toujours un innovateur dans tout ce qui est mode de scrutin. C'est en 1856 qu'à Tasmanie, on a inventé le vote secret. À l'époque, on appelait ça « the Australian ballot
okay. ».
Et en 1902, à le moment de la fédération, il y a eu le droit de vote à la fois pour les femmes et pour les hommes. Mais les deux choses importantes, c'est qu'en 1924, on a imposé le vote obligatoire. Mm-hmm. Comme en Belgique. C'est-à-dire que si on ne vote pas, on paie une amende, c'est de l'ordre de 13 euros, c'est pas grand-chose. Mm-hmm. Mais on a des taux de participation de l'ordre de plus de 80-95%. Et le deuxième aspect, donc on a résolu le problème d'abstentionnisme.
Ouais.
Mm-hmm. C'est la première chose. Et le deuxième aspect, c'est le vote préférentiel. C'est-à-dire qu'on exprime, c'est un peu l'esprit de notre système à deux tours,
mais
avec un seul tour. Donc on exprime ses préférences. Donc on peut voter pour un candidat farfelu. Quand j'y étais étudiant, il y avait une partie qui s'appelait The Happy Birthday Party.
Okay.
On pouvait voter pour le Happy Birthday. Il y avait même une partie qui s'appelait le Sex Party.
Okay.
On pouvait voter pour ces parties-là. Mais on a résolu le problème de vote utile. Parce qu'on peut mettre en deuxième préférence okay. un parti syrien qu'on n'a pas libre. Donc, ceci explique cette victoire, c'est que dans les circonscriptions UP, l'équivalent de NIO, le 16e, tenu depuis historiquement par les conservateurs, il y a eu des candidats indépendants. Surtout les femmes, qu'on appelle les teal independents, les indépendantes. Vert bleu, la couleur, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils sont centre-droite, mais très acharnés sur les questions de l'environnement. Et c'est ces femmes-là qui ont battu, en fait, un certain nombre de membres du Parti libéral et qui ont assuré la victoire des travaillistes.
Ça veut dire que c'est pour ça, effectivement, comme vous le disiez, que les travaillistes n'ont pas fait un nombre de voix très impressionnant, au contraire, moins que la dernière fois. Mais ce qui compte, effectivement, c'est les fameux Teals, comme vous le disiez, ce sont les Verts, pour le coup, les partis écolos à côté. Est-ce que ça veut dire que désormais, Anthony Albanese, tout seul, de toute façon, ne pourra pas gouverner? La majorité absolue, c'est 76. Où est-ce qu'il est au moment où on se parle?
On en parle, je crois qu'il est presque 76. Au Sénat, ce qui est important, c'est au Sénat, qui est élu grosso modo dans un système proportionnel, aucune partie historiquement a une majorité au Sénat. Donc c'est les Verts, les indépendants, qui ont l'équilibre au Sénat, et là ils sont les progressistes. Donc il a dans une politique, une situation où sur le climat, il sera poussé d'aller plus loin qu'auparavant.
Alors on va y venir, parce que si on regarde son programme, il va plus loin que Scott Morrison, mais il va pas tellement plus loin, si ce n'est que effectivement il est poussé par les petits partis qui peuvent l'emmener encore plus dans cette direction-là. Avant d'en parler très directement, il y a une chose qui me frappe. Il a dit « je vais réparer l'image de l'Australie ». Vous faisiez la comparaison avec 72. Moi, j'ai l'impression même d'être aux États-Unis après Bush, où il faut réparer réellement le pays. Est-ce qu'on en est là, en Australie? Est-ce que son image a été malmenée à ce point-là par Scott Morrison?
Oui, et c'est pour ça que un des traits de Anthony Albanese, c'est son histoire personnelle. C'est le fils d'un maire célibataire qui était handicapé, qui était élevé dans les HLM. C'est le premier enfant de sa famille qui a fait des études universitaires. Et c'est un homme, disons, authentique, contrairement à son prédécesseur. Et ça, les gens le sont. Dans ces élections, il y a aussi un aspect de régie, d'une certaine régie, d'une culture politique macho et machiste.
C'est un monsieur très antipathique, en fait. C'est ce qu'on disait beaucoup en lisant la presse australienne, une personne antipathique que ce Scott Morrison.
Ah oui, non, c'est un régie parmi les électeurs féminins, et un régie important. Aussi, c'est un régie d'une certaine culture politique machiste. C'est une conjoncture de Me Too, et aussi de la montée des questions de l'environnement. Avec ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'avec les feux de forêt de 2019, et actuellement les inondations terribles dans le pays, que les climosceptiques en Australie sont une race en train de disparaître. Et donc la bataille, au moins, d'idées sur le changement climatique est gagnée. Mm-hmm. Et donc, Albanese arrive dans un moment propice pour un programme qui... En fait, oui, effectivement, les travailleurs sont promis de réduire les
C'est un pays charbon. Hein. Faut expliquer aux gens qui nous écoutent que c'est un pays charbon, l'Australie. Que Scott Morrison avait promis de réduire un peu. On était à 23%.
C'est un pays de charbon, mais actuellement 27% de l'énergie est de l'énergie renouvelable. Et avec la promesse d'aller vers le 50% d'ici 2025.
De devenir une superpuissance d'énergie renouvelable, sans renoncement au charbon. Est-ce que vous pensez que, poussé par les partis indépendants, par les partis écolos, on s'achemine vraiment vers la fin du charbon en Australie?
Oui, je crois tout à fait, mais pas à cause de l'impulsion politique, mais c'est le système capitaliste qui le veut. Les banques et les fonds de pension ne veulent plus investir dans les mines de charbon. Et maintenant, les prix d'énergie de renouvelables en Australie sont inférieurs, c'est compétitif. Vous savez qu'un quart des habitations en Australie ont des panneaux solaires. Mm-hmm. Donc, c'est le paradoxe de l'Australie. C'est un pays qui, certes, dépend du charbon, mais qui a tous les attributs pour être, justement, comme il le disait, la superpuissance de l'énergie renouvelable. Vous avez beaucoup de soleil, vous avez le mer, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les places.
Et la place, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez de la place
alors,
pour les éoliennes.
Ce
ou
qu'il
pour...
faut maintenant, c'est des investissements. Hein. Et là, c'est effectivement, il faut des investissements significatifs dans les lignes de haute tension pour justement et dans les batteries. Le paradoxe, l'Australie est une il y a des mines de lithium de prendre pour les batteries, mais on n'en fabrique pas de batteries. Donc il faut maintenant faire les batteries en lithium en Australie.
Alors, il y a cet immense sujet du climat, effectivement, qui a divisé ces deux personnages au moment de l'élection, mais pas seulement. On a parlé des autochtones du côté des travaillistes qui ont été très très maltraités aussi par Scott Morrison. On a parlé de changements sociaux, notamment. On n'a pas parlé de changements de politique migratoire, ces fameux camps offshore où on entassait les migrants. Ça, on n'en parle pas. En revanche, on a même l'impression qu'il y a une forme de consensus entre travaillistes et conservateurs là-dessus.
La campagne Anthony Albanese était d'être aussi consensuel possible sur un certain nombre de sujets. Donc, sur effectivement ces camps de tension, mais je crois qu'on risque quand même de les fermer pour des raisons purement économiques. Vous savez, comme ça coûte presque 100 000 euros par an. Pas détenus dans ces camps. Donc, cet argument, là, il y a une possibilité d'accord avec les Néo-Zélandais qui ont déjà proposé, le Premier ministre néo-zélandais, Jacinta Ardern, également travaillé sur proposer de prendre ces 1000 personnes. Mais effectivement, la politique de repousser les bateaux, effectivement, malheureusement, va rester pour l'instant.
Là où les choses ne vont pas bouger non plus beaucoup, peut-être que c'est en termes de politique étrangère. Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui donc est désormais défait de son devoir de réserve, n'a pas mâché ses mots. Il a dit, la défaite de Morrison, vous l'avez vu, j'imagine, me convient très très bien. Il a même été cynique et d'une incompétence notoire. Donc c'est le chien de ma chienne, évidemment, de l'histoire des sous-marins que remet Jean-Yves Le Drian. Mais honnêtement, si cette histoire s'était produite sous un gouvernement travailliste, est-ce que c'est pas exactement la même histoire qui se serait produite au sujet des sous-marins?
Je ne pense pas parce que bon, bien que l'alliance avec les États-Unis soit une alliance qui est soutenue par les deux grands partis politiques, les travaillistes, historiquement, voulaient toujours prendre quand même un peu de distance avec les États-Unis, avoir quand même un peu d'autonomie par rapport aux États-Unis. Donc, il n'y aura pas cet aspect anglophone, anglosphère, un peu de nostalgie de l'Empire de Scott Morrison avec les travaillistes. Et également, les travaillistes, ils ont dit, bon, ils étaient d'accord avec l'AUKUS, mais, et le diable est dans les détails, ils souhaitent aussi regarder les détails parce que... Donc, je crois qu'on peut, sur cette question du sous-marin, mais également sur les 200 milliards d'euros de promesses pour les armements de Scott Morrison, il y aura une sorte d'inventaire des travaillistes parce que maintenant que l'élection est terminée, on peut avoir un débat serein sur de quel type de défense il faut construire l'Australie. La guerre d'Ukraine est passée par là.
Bien sûr.
La Chine en Pacifique Sud devient de plus en plus, disons, présente. Donc il y a un débat à venir sur ces questions, par exemple, qui traversent les partis politiques. Vous trouvez ceux qui sont plus sympathiques avec la Chine à côté à la fois des conservateurs que de côté travailliste. Donc, c'est pas une question, disons, de parti.
On a entendu Joe Biden avoir des mots très très durs contre la Chine, puisque les pays se retrouvent aujourd'hui et demain dans ce qui s'appelle le Quad, c'est-à-dire le Japon, les États-Unis, l'Australie et l'Inde. On a entendu Joe Biden donc avoir des mots extrêmement durs contre la Chine, mais on a quand même l'impression, vous l'avez un peu évoqué, que l'Australie, elle, doit à la fois se rapprocher des États-Unis sans être inféodée aux États-Unis, sans réellement se fâcher quand même avec le grand voisin chinois qui est très présent juste en dessous dans les îles Salomon. C'est compliqué l'équation australienne en ce moment.
Oui, parce que le grand partenaire commercial, c'est la Chine, et le grand protecteur, c'est les États-Unis. Bon, je cite un livre qui vient de sortir de Kevin Rudd, l'ancien premier ministre travailliste, qui se appelle the avoidable war, la guerre qui pourrait être évitée. Mmh. Et ce qui souhaitait Rudd, c'est que bon, il faut accepter qu'il y ait deux grandes puissances en Asie-Pacifique, la Chine et les États-Unis, et il faut faire comme font les pays de l'Asie du Sud-Est, il faut naviguer entre ces deux grandes puissances. Donc Biden fait une erreur significative en voulant enrôler systématiquement les pays de la région sur le côté, parce que sur les pays où la Chine est le plus grand partenaire commercial, où l'investissement chinois est plutôt bienvenu, sur l'aide au développement des Chinois est plutôt bienvenu, donc c'est un peu contre-productif de pousser ces pays qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de ne pas choisir entre les États-Unis et la Chine.
David Camo, il est au Japon donc, hein, Anthony Albanese, pour cette fameuse réunion, il arrive avec son drapeau climatique, etc. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, ce serait la dernière question, que on va discuter aujourd'hui avec l'Australie différemment, que il a réussi à changer ce paradigme-là, qu'il est en train de mettre en avant lors de sa toute première visite, alors qu'il est élu depuis 24 heures seulement?
Je crois que ça va bouger. Il est accompagné par sa ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, d'origine chinoise. Mmh. Ça change les choses. Qu'elle est une très bonne ministre fantôme. Et en fait, c'est d'être nuancé, c'est d'avoir une politique plutôt européenne envers la Chine. C'est vrai que la Chine, c'était une rivale, c'est vrai, c'est une concurrente, mais c'est également un partenaire potentiel. Donc, il faut trouver une façon d'équilibrer les choses. Il faut trouver le bon équilibre entre l'aspect militaire, sécuritaire, et l'aspect économique.
Voilà, nouvelle Australie, en tout cas, à vous entendre, et on suivra avec plaisir avec un nouveau Premier ministre qui s'appelle Anthony Albanese. David Camerou, merci beaucoup de votre passage chez nous. À très bientôt.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
La suite ce soir, comme tous les lundis, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet, des nouvelles de Dmitro et d'Alex ce soir que vous avez déjà pu entendre ici. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
Nous irons au Bangladesh qui fait face à ses pires inondations depuis 20 ans.
Le monde selon Biden, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Les soldats américains ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Aujourd'hui, c'est le lait pour bébé européen qui vient sauver l'Amérique.
Le monde d'après, Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Visite à haut risque pour Michel Bachelet en Chine. La haute commissaire aux droits de l'homme est soupçonnée de servir les intérêts de Pékin.
Voilà, on y revient toujours. À tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis avec Daniel Rosen de Last One. C'est le premier album de l'américain. Premier album solo issu des groupes Grizzly Bear et Department of Eagles. Et c'est un jour dans le monde.
And all those years alone.
Le bruit du monde, le lundi, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
On vous retrouve tous les lundis et on retrouve grâce à vous des nouvelles d'Ukraine envoyées par des Ukrainiens et Ukrainiennes qui vous racontent tout simplement ce qu'ils voient par le biais de notes vocales. Pour beaucoup d'entre eux, la situation s'est apaisée ces dernières semaines puisque les combats, vous le savez, sont concentrés vers le Donbass. Et c'est le cas pour Dmytro dont vous nous parlez aujourd'hui.
Oui, Dmytro, il est à Kharkiv, ville de l'Est qui a été fortement bombardée et d'où il essaye de nous envoyer des nouvelles quand il peut. Ces derniers temps, la situation s'apaise, on s'est dit que c'était le moment de vous raconter son histoire. Voilà une sélection de deux de ses messages. Le premier a été envoyé en mars, alors qu'il quittait, comme tous les soirs, son appartement pour rejoindre un abri dans la cave d'une école où il passait alors ses nuits avec une centaine d'autres personnes. Ce message, il date du 20 mars. Le deuxième, c'était il y a quelques jours et il nous annonçait qu'il avait enfin quitté l'abri.
Ma rue a été blessée un peu par le bombardement. Il y a des oiseaux ici, des colombes, des moineaux. Donc j'ai préparé un peu de pain, des grains. Ils ont très faim parce que tous mes voisins ont quitté leur appartement. Il n'y a pas de personne pour les aider. Le printemps approche. On espère que la paix aussi. Alors, j'entre dans l'abri maintenant. Ici, nous avons un petit espace, une petite chambre sans les fenêtres, où nous avons les rallonges ici pour charger nos portables. Ça nous permet d'avoir l'accès à l'internet et aux nouvelles. Donc, on suit tout le temps parce que il y a beaucoup de temps libre. Je descends maintenant dans le sous-sol. Ici, les murs avec les taches de l'humidité. Ce qui concerne l'âge, il y a les enfants de, je pense, de 5 ou 6 ans jusqu'à les personnes âgées, comme par exemple ma grand-mère qui a 89 ans. Donc, je pense qu'elle est la plus vieille personne ici. Donc, voilà. Bonsoir Caroline, excusez-moi pour la réponse tardive. Ici, à Kharkiv, la situation, je pense, elle change au mieux. C'est pourquoi nous avons, notre famille a quitté l'abri depuis 2 ou 3 semaines. Voilà, nous avons célébré l'anniversaire de ma grand-mère. Elle a tourné 90 ans. C'est la troisième guerre qu'elle survit. Voilà, donc elle était petite quand c'était la deuxième guerre mondiale. Puis en 2014, la guerre de Donbass et maintenant ici à Kharkiv. Voilà.
Dmytro sort enfin de l'abri et Oleg, lui, est retourné pour la première fois à Irpin. Oleg, qui vit à Kiev, vous l'avez souvent entendu ici. Irpin, c'est la ville dont on parlait la semaine dernière, ville occupée par les Russes, où il y a eu de nombreuses exécutions et des viols.
On passe devant une forêt des conifères. En passant en voiture, on a remarqué qu'il y a des bouts de métal qui sont collés sur les arbres à la hauteur de 2, 3, 4, 5 mètres. On est sorti de voir ce que c'est. Il s'avère que c'était une voiture qui a été explosée ou qui a été tirée par un char ou je sais pas quoi, que le métal est parti dans tous les sens et la température était tellement haute que le métal a encerclé les troncs des arbres et la voiture, elle est dispersée. Juste le signe Fiat, la marque, un emblème, nous fait comprendre que c'était une voiture avant. Aujourd'hui, je suis à Irpin. Avant la guerre, c'était une banlieue de Kiev très confortable, très paisible. Et maintenant, c'est un village rasé. On voit les immeubles qui sont détruits et les maisons noires à cause de la fumée. Je suis allé plusieurs fois à Tchernobyl et ici c'est un peu la même impression, c'est déserté. La nature prend le dessus. On entend énormément les oiseaux là parce que il y a très peu de vie, mais on voit partout les vitres brisées, les voitures abandonnées et on sent toujours dans ce silence l'horreur que les gens ont vécue ici.
On sent dans ce silence l'horreur que les gens ont vécue ici. Merci vraiment à Oleg, merci à Dmitro, merci à vous aussi Caroline Gillet. Toutes les notes vocales sont à retrouver, vous le savez, sur la page de cette chronique sur franceinter.fr. Notes vocales d'Ukraine, à lundi prochain. Et Sébastien, dans Sous les radars, nous sommes d'abord au nord du Bangladesh, ravagé par des inondations historiques.
Après des températures caniculaires de la semaine dernière en Inde, plus de 40 degrés, parfois près de 50, le réchauffement affecte encore lourdement le climat dans cette région. Des pluies diluviennes, cette fois-ci, se sont abattues la semaine dernière et sur l'Inde et sur son voisin le Bangladesh. Donc, orages, glissements de terrain en cascade et au final une soixantaine de morts dans les deux pays et des millions de personnes isolées, coupées du reste du monde, leurs maisons et leurs terres agricoles submergées. Au Bangladesh, ce sont les pires inondations depuis 20 ans. On entend là des familles qui ont tout perdu. La moitié de notre propriété est sous l'eau, explique ces Bangladais. On vit en mettant un lit sur un autre. Si l'eau monte, on ne sait pas ce qu'on fera. J'ai perdu toute ma récolte de riz, dit un autre. Pour boire et pour les toilettes, on est obligé de récupérer l'eau de pluie. On n'a plus accès à l'eau potable. Les conditions de vie sont insupportables. Ces événements météo sont exceptionnels, extrêmes, totalement anormaux et selon les experts, ils risquent de se multiplier avec le réchauffement. Les averses toutefois ont commencé à se calmer au Bangladesh. Les inondations reculent depuis hier, mais il faut encore réparer une énorme digue. Des travaux très lourds, pardon. En attendant, le calvaire des habitants se prolonge.
Et on reste dans la région, Sébastien, direction le Taj Mahal, sous la menace des hindous fanatiques.
Le Taj Mahal, l'une des sept merveilles du monde, joyau architectural construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shahjahan pour perpétuer la mémoire de sa femme adorée. Le Taj Mahal, symbole de l'apogée de l'expansion musulmane en Inde, mais surtout symbole de l'Inde aux yeux de toute la planète, eh bien les hindous les plus radicaux ne le supportent plus et depuis quelque temps ils sont passés à l'initiative. Ils s'agitent devant les tribunaux pour avoir le droit d'y prier, expliquant que le monument a été édifié sur le site d'un ancien sanctuaire dédié à Shiva, un sanctuaire détruit selon eux par les moghols. Les hindous les plus extrémistes n'hésitent pas à menacer l'intégrité du lieu. Si nécessaire, disent-ils, nous détruirons le Taj Mahal et prouverons l'existence d'un temple à cet endroit. C'est une historienne indienne que l'on entend là. Ses revendications, dit-elle, sont à peu près aussi raisonnables que de dire que la Terre est plate. Nulle part dans les documents, il n'est fait mention d'un temple. Je ne m'inquiète pas de la démolition du Taj Mahal, dit-elle. Je crains en revanche que tout cela ne provoque de la désinformation parmi les gens. Si le Taj Mahal, en effet, ne paraît pas menacé directement, il y a d'autres lieux, des mosquées qui sont aujourd'hui dans le viseur des extrémistes. Une mosquée à Varanasi, par exemple. La semaine dernière, on on y a trouvé un Shiva Linga, signe du dieu Shiva. Les musulmans se sont donc vus interdire d'y pratiquer leurs ablutions. Des faits qui rappellent de très mauvais souvenirs, le drame de la mosquée d'Ayodhya, détruite par des fanatiques hindous en 1992. À l'époque, des émeutes interconfessionnelles avaient fait plus de 2000 morts.
En Israël, pour finir, Sébastien, l'intelligence artificielle pour prévenir les noyades en mer.
C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de pays dans le monde, la France en particulier, très touchée chaque année par les noyades, on le sait, c'est le cas en ce moment en Gironde. Eh bien Israël, fidèle à sa réputation de start-up nation, tente de développer de nouveaux outils numériques et notamment ce système de caméras de vidéosurveillance face à la Méditerranée. Des caméras qui collectent des informations pour étudier la force des courants et pour voir si un nageur est en difficulté. Le patron de l'entreprise qui a conçu ce système explique qu'il s'est appuyé sur les mêmes caméras que celles qui surveillent les rues et qui veillent à la sécurité publique. Alors pourquoi ne pas porter, dit-il, la même méthode en mer? Si un risque est détecté, une alerte est envoyée sur la tablette d'un maître nageur avec des instructions et cela peut sauver des vies. Le programme est en ce moment testé à Ashdod, près de Tel Aviv. L'an dernier, pendant la haute saison, 21 personnes sont mortes noyées dans des espaces sans surveillance sur les côtes israéliennes.
Eh bien, dites donc, merci beaucoup, Sébastien. Prudence donc sur les plages, puisqu'on commence à mettre quelques orteils dans l'eau en ce moment. À demain, bien sûr. Je vous laisse partir avec Rufus et Chaka Khan, Walking in the Sun. Bah tiens, ça donne envie de se baigner, justement. Things have been going wrong long enough to know everything is right. Been walking in the dark long enough to know I finally seen the light. Been losing long enough to know when I find the one. And even a blind man can tell when he's walking in the sun. C'est Chaka Khan, Walking in the Sun sur France Inter. Ils sont de Chicago et comme c'est très bien fait cette émission, nous allons aux États-Unis rejoindre Sébastien Pao.
France Inter, un jour dans le monde.
Le monde selon Joe Biden et l'Amérique de Biden. Sébastien, quasiment en guerre en Ukraine, on le sait, mais aussi mobilisée sur un autre front. Elle a besoin de lait pour bébé.
Oui, ça paraît impossible et pourtant si, les États-Unis manquent de lait pour nourrissons depuis déjà plusieurs mois. Les rayons sont quasi vides dans de nombreux États. Certains concoctent leur propre mélange à la maison avec les risques que ça comporte. Mais c'est bien la réalité et elle s'explique cette réalité par plusieurs facteurs. D'abord, un marché contrôlé à 90% par trois entreprises, les retards d'approvisionnement en matières premières à cause de la pandémie, les difficultés à trouver du personnel dans les usines et puis l'une d'entre elles, l'une de ces usines qui a fermé en février dans le Michigan à cause du décès suspect de deux enfants. Voilà donc l'Amérique incapable de nourrir ses nouveau-nés. Alors Joe Biden a dégainé l'opération Fly Formula, un pont aérien avec l'Europe pour faire venir du lait pour bébé de ce côté de l'Atlantique. Un premier avion est arrivé hier à Indianapolis et le secrétaire à l'agriculture Tom Vilsack était sur le tarmac pour l'occasion.
La cargaison va essentiellement descendre de cet avion cargo. Puis les équipes de Federal Express vont la prendre en charge. Ils vont la livrer à un centre de distribution que Nestlé et Gerber ont ici dans l'Indiana. Ensuite, tout sera mis dans des camions et livré dans des hôpitaux et des cliniques de soins à domicile dans tout le pays pour fournir soutien et aide.
Voilà, ce premier avion de l'US Air Force transportait 132 palettes, 31 tonnes de lait pour bébés qui ont des allergies. C'était la priorité d'après la Maison Blanche. Un deuxième appareil devrait se poser aux États-Unis mercredi, toujours en provenance de la base américaine de Ramstein en Allemagne.
Allez, c'est tendu sur le front du lait sur bébé, donc on la compte pour bébé. Ça l'est tout autant sur la question de l'avortement.
Oui, les États qui ont déjà adopté des lois ou qui ont des lois prêtes à être signées si la Cour suprême remet en cause le droit constitutionnel de 1973 sont de plus en plus nombreux. La moitié, en fait, des États américains, 26, ont ou sont prêts à légiférer ou à limiter ou interdire l'avortement. Certains de ces États conservateurs l'ont déjà fait. Le Texas, on en a parlé depuis l'automne dernier. D'autres viennent de le faire. C'était le cas de l'Oklahoma jeudi dernier. Son texte interdit l'IVG dès la fécondation. L'Arkansas à la même loi dans son tiroir, son gouverneur républicain l'a encore dit ce week-end. Alors, que penserait de tout ça celle qui a donné son nom à la légalisation de l'avortement, ici, Jane Roe, c'était il y a presque 50 ans. Elle s'appelait en fait Norma McCorvey. Elle n'est plus là pour le dire, elle est morte en 2007. Mais sa fille aînée, Melissa Mills, s'exprime en ce moment dans la presse américaine, comme ici sur CNN, à propos des manifestations pro-avortement, notamment devant la Cour suprême ici à Washington.
Elle serait si heureuse de voir tout ça et si heureuse de savoir que les gens se défendent et qu'ils ne veulent pas renoncer à leurs droits. Elle serait très heureuse, je sais qu'elle le serait. Donc nous avons besoin de Roe, nous avons besoin de cette autonomie. Nous en avons besoin pour nous-mêmes, pour pouvoir choisir ce que sera notre vie et comment nous la vivons. Je suis heureuse qu'elle ait eu la vision qu'elle avait et qu'elle se soit battue pour les droits des femmes. Et on se rend compte aujourd'hui de ce que ça a été pour obtenir ce droit.
Les 9 juges de la Cour suprême, 6 conservateurs, 3 progressistes, doivent rendre leur décision d'ici l'été.
Voilà, on y reviendra ensemble, Sébastien, dans peu de temps, j'imagine. L'Amérique a encore d'autres motifs d'inquiétude.
Oui, la remise en cause potentielle de l'IVG n'est pas la seule. Il y a aussi cette inquiétude des Noirs américains pour leur propre vie. C'est le Washington Post qui a posé la question à l'échelle du pays avec Ipsos aux Afro-Américains après la tuerie de Buffalo il y a 10 jours. 10 morts dans un supermarché d'un quartier à majorité noire de la ville de l'État de New York. Le tueur de 18 ans avait choisi cet endroit à dessein. Eh bien, les 3/4 des Afro-Américains interrogés craignent qu'eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils aiment soit attaqué à cause de sa couleur de peau. Et ils sont 8 sur 10 à estimer que la façon dont la police traite les Noirs ne s'est pas ou peu améliorée depuis la mort de George Floyd. C'était il y a 2 ans, sous le genou d'un officier blanc.
Sébastien Paouan, merci beaucoup. Sébastien, on se retrouve lundi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Ce soir, Franck-Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, a entamé aujourd'hui une visite de 6 jours en Chine consacrée au traitement des musulmans dans le Xinjiang. Ce voyage est d'ores et déjà très critiqué par des ONG de nombreux pays occidentaux. La crédibilité du haut commissaire aux droits de l'homme à l'ONU est en jeu, Franck.
Oui, vous connaissez, Fabienne, l'histoire des villages Potemkin. En 1787, le ministre russe Grigori Potemkin organise un voyage pour faire découvrir la nouvelle Russie à l'impératrice Catherine II. Il l'emmène en Crimée où il a préalablement fait construire de magnifiques villages en carton-pâte pour masquer la pauvreté de la région. Eh bien, c'est un voyage Potemkin que redoutent les défenseurs des droits de l'homme au premier jour de la visite en Chine de la haute commissaire aux droits de l'homme. Michelle Bachelet pourra-t-elle rencontrer qui elle veut, aller où elle veut? C'est peu probable, son séjour a fait l'objet d'âpres négociations entre l'agence de l'ONU et Pékin. Une équipe du haut commissariat est déjà sur place depuis un mois, à Canton, avec pour mission d'affiner le programme. Mission délicate car la principale destination du voyage, le Xinjiang, donc, se trouve à plus de 4000 km. Michelle Bachelet a tenu aujourd'hui une visioconférence avec des représentants de 70 ambassades étrangères. D'après des diplomates cités par l'AFP, elle a assuré qu'elle aurait accès à des centres de détention et pourrait s'entretenir avec des militants des droits de l'homme. Elle se rendra demain au Xinjiang, dans les villes de Kashgar et Urumqi.
Alors, pas sûr que Michelle Bachelet ait convaincu tous ses interlocuteurs de la pertinence de sa visite, Franck.
Il faut rappeler d'abord ce qui est reproché à la Chine dans le Xinjiang. De nombreuses études, des travaux d'universitaires, de journalistes accusent Pékin d'avoir interné au moins 1 million de Ouïghours et de musulmans d'autres minorités dans des camps de rééducation. Les autorités chinoises y imposeraient le travail forcé et pratiqueraient dans certains cas des stérilisations forcées. Human Rights Watch parle de violation des droits de l'homme à une échelle et d'une portée inimaginable depuis la dernière visite d'un haut commissaire en 2005. Amnesty a dénoncé dans un rapport les persécutions à grande échelle orchestrées par l'État, qualifiées de crimes contre l'humanité. Pékin, bien sûr, dément avec vigueur et présente ses camps comme des centres de formation professionnelle destinés à combattre l'extrémisme religieux. Pour les ONG de défense des droits de l'homme, aucun doute, la Chine va utiliser la visite de Michelle Bachelet pour se dédouaner. Un voyage de propagande, en quelque sorte. Et il sera d'autant plus simple de fermer certains accès que Pékin pratique toujours, rappelons-le, la politique zéro Covid, en appliquant des mesures drastiques, même si la haute commissaire a été épargnée de 40 à son arrivée en Chine, d'autres restrictions sanitaires permettront de limiter ses déplacements. Enfin, Michelle Bachelet elle-même est critiquée pour son positionnement. Elle ne s'exprime presque jamais, Fabienne, sur le respect des droits de l'homme en Chine. Depuis le début de son mandat en 2018, le haut commissariat n'a pas publié un seul communiqué sur le Xinjiang. Les États-Unis dénoncent un silence persistant. Une autre agence de l'ONU, on s'en souvient, s'était trouvée sous le feu des mêmes critiques, l'Organisation mondiale de la santé, dont le directeur Tedros Ghebreyesus était jugé trop proche de Pékin au début de la pandémie.
Mais alors, est-ce que Michelle Bachelet aurait dû renoncer à ce voyage en Chine?
C'est tout le problème. Si elle n'y était pas allée, elle aurait aussi essuyé des reproches. L'ancienne présidente du Chili est, c'est vrai, plus conciliante avec la Chine que beaucoup de pays occidentaux. À l'inverse, son prédécesseur à ce poste, Zeid Raad Al-Hussein, dénonçait sans relâche les atteintes aux droits de l'homme en Chine. Mais Michelle Bachelet a des arguments dans une interview accordée au journal suisse Le Temps. Elle assure qu'elle aborde ces questions avec les autorités chinoises en privé. Elle met aussi en avant les droits économiques et sociaux qui ne doivent pas être séparés des droits civils et politiques. Et sur ces points, même si c'est aussi le discours de la Chine, il y a eu des avancées. Surtout, Michelle Bachelet ne doit pas être jugée sur la pertinence de cette visite, mais sur ses conclusions. Un rapport du Haut Commissariat sur les atteintes aux droits de l'homme dans le Xinjiang serait prêt depuis l'été dernier. Les ONG regrette qu'il n'ait toujours pas été publié, l'occasion de mettre un tampon de l'ONU sur le constat des crimes commis par Pékin. C'est au moment de la publication de ce rapport qu'on pourra juger du courage ou de la couardise de Michelle Bachelet.
Le Monde d'après et Franck Madvon ce soir. Merci beaucoup Franck, à très vite pour nous. Bien sûr, ça continue le 18-20, la suite c'est le journal de 19h. Présenté par Hélène Philly et puis le téléphone sonne, on passe la soirée ensemble, ne changez rien.